Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Sur France Bleu Brésil pour notre jardinage, notre jardin pour Jardino Naturel. Philippe Meunier nous rejoint en direct. Bonjour Philippe.
Bonjour Morgan, bonjour à tous.
Bonjour, alors en cette météo un peu fraîche, mais bon finalement de saison, un peu d'humidité, de la fraîcheur, un petit rayon de soleil de temps en temps. Cette saison en un mot hein, Philippe, hein, vous nous confirmez hein.
Bon oui, en avril, tout ça,
ouais, tu sais, l'histoire du fil, là.
Tout
voilà.
Ça, là, voilà, c'est ça, faut faire attention, voilà. Donc, ben voilà. Et puis il y a un truc qu'on a eu aussi. Hein, oui. Il naît d'avril, qui naît de neige ou de grésil. Bah du grésil, il y en a eu un petit peu la semaine dernière, donc ça bien, c'est bien. C'était un bon mois d'avril, comme voilà. Il fallait. Ouais. Donc, ben voilà, on va espérer qu'en mai, on pourra faire tout ce qui nous plaît, ouais. Parce qu'il y a du travail au jardin. Va peut-être pas falloir quand même continuer à perdre du temps comme ça.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. De l'humidité encore ce week-end, et puis lundi, on reviendra un temps plus clément, plus ensoleillé d'ailleurs, nettement. Pas les grandes chaleurs, mais plus de soleil dès lundi.
Donc. Oui, c'est pas grave, quand il fait trop chaud, c'est pas bon, ça dessèche la
c'est
terre.
C'est vrai, ça c'est très juste. On file à Roscoff rejoindre Colette dans son jardin. Bonjour Colette et bienvenue.
Bonjour messieurs les jardiniers, bonjour Philippe. Je voulais savoir si c'est le moment de mettre les pièges à Carpocaps dans les pommiers et poiriers, ou si c'est pas déjà trop tard.
Carpocaps.
Non, alors c'est pas déjà trop tard, hein, c'est même plutôt maintenant, mais même ça peut être encore un petit, vu qu'il n'y a pas de température. En fait, je rappelle quand même le Carpocaps, pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est un petit papillon de nuit, enfin en tout cas de crépuscule, qui a une sale manie, c'est d'aller pondre ses œufs sur les feuilles ou sur les troncs de pommiers, ou de poiriers, ou de noyers. Et la petite chenille qui naît n'a de cesse que d'aller se nicher dans une pomme, dans une poire ou dans une noix, elle a le choix. Hein, et ça fait bah, le fameux... Alors, le premier coup, c'est-à-dire maintenant au mois de mai, bah on voit rien. Il y a juste la toute petite pomme qui vient de se former, qui tombe, et on voit rien du tout. Par contre, la petite chenille qui va naître, donc qui va tomber au sol, qui va aller se cacher dans le sol, qui va se développer tranquillement, elle va renaître au mois de fin août, début septembre, et c'est elle qui est responsable des fameux vers dans la pomme et qui peut ruiner une production en quelques jours. Donc effectivement, il faut déjà agir dès maintenant. C'est une très bonne idée. Il faut empêcher cette première ponte ou la limiter au maximum. Alors un, en mettant des pièges donc à phéromones, à confusion sexuelle, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on imite l'odeur de Madame Carpocaps. Donc tous les Monsieur Carpocaps se ruent dessus et craquent au lieu de trouver une jolie femelle, ils trouvent une bande collante. Donc c'est pas sympa du tout pour eux, ils en meurent, hein, c'est, voilà, carrément. Et donc, ça, moins il y a de mâles, moins il y a de fécondation, moins il y a de chenilles, plus on aura de pommes en bonne santé. Donc, ça, c'est une chose. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y en a quelques-unes quand même qui vont être contaminées, des pommes. Et il y a une bestiole qui est vraiment tout à fait adaptée à la situation, c'est la poule, parce que dès que la petite chenille va tomber par terre, elle va descendre de quelques, même pas centimètres, de quelques millimètres dans le sol pour se cacher. Mmh. Et la poule, bah, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? C'est de gratter, d'aller manger les petites chenilles comme ça. Donc la poule, pendant tout l'été dans le verger, c'est très bien. Dès que les pommes sont grosses, on la sort, hein, sinon elle les attaque. Et puis éventuellement aussi, si on a des mésanges bleus, enfin des nichoirs à mésanges bleus. Il faut savoir que les mésanges, d'une manière générale, sont les premiers prédateurs des chenilles. Et entre le moment où Madame Carpocaps pond ses œufs et le moment où la petite chenille rentre dans une pomme, et ben grosso modo, on estime qu'il se passe à peu près une dizaine d'heures. Donc une dizaine d'heures pendant laquelle la mésange peut voir la chenille et hop.
Non, mais j'en ai plein de mésanges dans mon jardin.
Très bien ça.
Bon, ben voilà, c'est bien, super. Et puis il y a un troisième auxiliaire qui est sympa aussi, c'est les chauves-souris, hein, parce que la chauve-souris vole à la même heure que Madame Carpocaps.
Exact.
Donc elle sort au moment où
vous en avez.
Donc
voilà. Vous en avez chez vous des chauves-souris?
Non.
Ouais, il me semble que non. Hein.
Ouais, non.
Sur Roscoff en tout cas.
Malheureusement non, j'en ai pas.
D'accord. Mais des mésanges, vous en avez en effet.
J'en ai. Ouais. Oui, merci.
Oh bah je vous en prie. Merci à vous.
C'est
super. Merci beaucoup, monsieur.
Belle journée à Roscoff. Au revoir.
Au revoir, merci.
Nous sommes à Lesneuvin, Philippe. Nous allons rejoindre Annick. Bonjour, Annick.
Oui, bonjour.
Bonjour. Quel problème rencontrez-vous?
Donc, j'ai un polonia dans le jardin qui est très haut, qui a 15 ans et qui sèche. Est-ce qu'il est arrivé au bout du rouleau? Je ne sais pas.
Ouais. Quand vous dites il sèche, à quoi vous le voyez?
Les branches sèchent.
Entendu. Il y a quelque chose au bout des branches, quand même
Non, rien du tout, c'est sec.
Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs, Philippe, au bout, là? Comment on appelle ça, les petites... Les petites, pas les sacs, mais comment, je cherche mon mot.
Des bourgeons.
C'est ça, les énormes bourgeons là. Quand,
mais alors normalement 15 ans c'est vraiment pas du tout un âge de mort pour un polonia. Donc je pense qu'il a dû avoir autre chose, un autre problème. Alors souvent ça se passe au niveau des racines. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a un champignon qui a osé se développer.
C'est résistant à l'hiver.
Ben oui, aucun problème, hein, ça résiste bien aux hivers. Donc, par contre, ça résiste pas très très bien aux excès d'humidité. Et cette année, rappelez-vous, jusque à temps que le froid n'arrive, et même quand le froid était là, il était humide. Donc, il y a eu beaucoup d'humidité et il y a eu l'action du froid tardive avec l'excès d'humidité a été néfaste pour pas mal d'arbres. Hein, j'ai pu le constater, je le constate encore dans beaucoup de jardins, dont le mien d'ailleurs. Hein, j'ai des trucs qui refusent de redémarrer. Je sais pas, normalement ils doivent résister jusqu'à moins 12. Mais là, non, cette année, non, désolé, on n'est pas là. Bon, bref. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense qu'il y a eu des gros problèmes, effectivement, d'asphyxie racinaire cet hiver. Parce qu'on a eu.
Tous les printemps, puis.
Bah oui, c'est vraiment un arbre qui est magnifique quand il est en fleurs.
Hein, c'est combien d'années?
Mais c'est un arbre qui devrait pouvoir durer sans problème 80-100 ans. Hein, donc à 15 ans, d'accord. C'est pas du tout normal que.
C'est pas normal du tout. Ça va pas nuire à l'arbre.
Alors vous pouvez tout à fait tenter le coup de couper les branches. De toute façon, s'il a eu un coup que de froid, il va redémarrer de la base.
D'accord.
Si c'est une attaque par les champignons. Il y a de fortes chances qu'il ne redémarre pas. Donc comme ça, vous serez effectivement...
D'accord.
Mais quand il y a eu un coup de froid, ça redémarre de la base. Et d'ailleurs, les premiers rejets font des feuilles assez énormes. Et d'ailleurs, certains jardiniers ne veulent même plus avoir de fleurs sur leur polonia. Ils le recèpent, ils le recoupent tous les ans parce que les feuilles sont tellement énormes que ça fait vraiment une plante géante assez exceptionnelle.
Qu'est-ce qui reste attaché aussi au polonia? J'en ai un aussi. Il a gardé depuis d'ailleurs l'an dernier cette petite poche, ces petites réserves de quoi?
C'est des gousses. Hein,
voilà. Elles sont énormes d'ailleurs, ces gousses.
En adéquation avec la taille de l'arbre.
Voilà, c'est ça.
Donc effectivement, ça fait des gros fruits et vous pouvez et vous amuser à semer.
Vous avez ces gousses aussi, Yannick, cette année, alors, du coup?
On n'a pas eu de fleurs encore, c'est trop tôt.
D'accord, mais pas de gousses, les fameuses poches noires.
Non.
Celles de l'année dernière, oui.
Non, vous ne les avez pas non plus. Ouais. D'accord. Donc, taillons les branches, pas de trop, mais un peu, le bout des branches.
De toute façon, tout ce qui est sec, vous pouvez l'enlever, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est sec, c'est sec.
Ça
ne reverdira pas. Voilà. Et puis après, je vous dis, vous verrez, si c'est que du froid, ça va repartir du pied. Il faut compter fin mai, à peu près, en moyenne, c'est fin mai. Hein. Et puis, si y a eu un champignon en cause, là, c'est plus aléatoire.
Entendu.
D'accord, merci beaucoup.
Merci Annick, à bientôt Alès Novin. Bonne journée. Nous serons avec Elisabeth dans un instant à Fouesnant. Tiens, qui rencontre un petit problème, enfin suscite un problème avec un blaireau. On en parle dans quelques instants sur France Bleu Brésil.
Philippe Munier répond à toutes vos questions. 02 98 53 65 65.
Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz. D'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés.
C'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy.
L'orchestre s'installe des professionnels.
Come on, boy.
C'est moi qui s'interpelle.
Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey, fils, le nom est Davis.
Aussi. Le camion aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, jusqu'à plus personne. Rien de l'entendre, Scott Hamilton, Duke Ellington.
Ok.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, et je me lance, allez, tant pis.
All right.
connais par cœur.
Hey, fils, tu joues comme Jimmy Smith.
Merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington.
Michel Jonas sur France Bleu, Bray Diesel.
France Bleu.
Taker Prod fête ses 10 ans. Le label breton organise une grande soirée à Carré le 28 avril. Avec au programme Startigène, Titom, Barbaloutique, Bourdonnais-le-Panse et le trio Fred Guichen, Sylvain Barou et Erwan Moine. Packernoz le samedi 28 avril à l'espace Glenmore à Carré avec France Bleu Bray Diesel.
Sur la Nationale 24, le contournement de Brest ou sur les routes du Trégor, on fait la route ensemble. En cas de difficulté de circulation en Bretagne, faites circuler l'info, ayez le réflexe. Appelez France Bleu Bray Diesel au 02 98 53 65 65.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Philippe Munier, nous allons accueillir Elisabeth de Fouesnant. Bonjour Elisabeth.
Alors moi j'ai un petit souci avec une bévette, je pense un béro qui vient retourner mon potager ou tout ce qu'il y a dedans. Et je me demandais, parce que je crois que c'est des bêtes qui n'aiment pas la lumière, si j'ai acheté des lampes solaires et que je les piquais autour du potager, est-ce que ça le ferait fuir?
Ah, est-ce que la lumière empêcherait le blaireau d'agir dans le potager, Philippe?
Ou est-ce qu'il faut vraiment mettre un grillage, parce que c'est une catastrophe.
Ouais, le blaireau quand même, qui est un animal un peu volumineux quand même, hein.
Eh oui, puis c'est surtout, ils ont deux ongles sur les pattes avant qui sont terribles de puissance.
Je ne sais pas si est-ce que c'est des vers qui viennent chercher dans le sol en tout
Alors,
cas,
absolument. Pas Non, ils viennent chercher des vers dans le sol. Donc, ce qui voudrait dire que votre sol est gorgé de vers. Alors, c'est pas toujours les vers de terre qui les intéressent le plus. C'est aussi toute la partie des larves. Parce qu'une larve, c'est beaucoup plus dodu, c'est beaucoup plus nourrissant. D'accord. Donc, tout ce qui est larve de noctuelle, larve de tipule, toutes ces bestioles qui mangent nos légumes par la racine. Comment?
Ce sont les grosses larves blanches, là.
Voilà, c'est
qu'on
ça.
Trouve quand on bêche.
Qu'on trouve quand on bêche, absolument. Ça, ils adorent parce que c'est hyper riche en énergie. C'est beaucoup plus riche parce que le ver de terre qui n'est que du muscle, et le muscle est moins bon que la graisse. Hein. Donc, effectivement, mais bon, le coup de la lumière avec des lampes solaires, tentez le coup parce que effectivement, c'est une bonne idée. C'est un animal nocturne et donc ça peut lui poser problème. Vous pouvez aussi, dans la série des trucs solaires, on trouve aussi des appareils anti-taupes, mais en fait ça émet des ondes dans le sol, des ondes de vibration, et ils sont assez sensibles à ce genre de choses-là aussi. Par contre, faut le changer de place à peu près tous les jours, hein, pour que il s'y habitue.
D'accord.
Pas, faut pas qu'il s'y habitue en fait.
Hein.
Donc c'est pas dur à faire, on le sort d'un endroit, mais
faut y penser,
faut y penser, voilà. Et puis si vraiment ça marche pas, il faut effectivement passer au grillage, mais quand même, si vous avez beaucoup de larves blanches, donc d'Oturin ou de hanneton dans le jardin, ça peut être effectivement ça qui les attire, et ça, pour le coup, ils sont presque auxiliaires qui travaillent un petit peu de manière brouillonne, mais auxiliaires quand même.
Mais
faut pas exagérer, quoi, voilà.
Tous les échalotes, les oignons, là,
oh là, oui.
Les salades.
Oh là là.
Ouais. D'accord, oui. Bon, non, effectivement, tenter les répulsifs. Il y a aussi on trouve aussi des répulsifs olfactifs. Simplement, ça se trouve très facilement, le géranium rosa, l'huile essentielle de géranium, qui a une odeur très forte, et il faut pas en mettre beaucoup, hein. Vous en mettez quelques gouttes dans du sable.
Oui,
on met quelques gouttes dans un bol de sable. Vous brassez bien pour que tout le sable ait l'odeur, et après, autour du jardin, vous dispersez ce sable odorant, et cette odeur-là a un effet assez dissuasif aussi. Et en plus, c'est sympa comme odeur pour nous.
Ouais, bien ça. Et ça reste 24 heures au moins aussi pour l'odeur.
Ça reste plus que ça. Les huiles essentielles, surtout avec l'odorat de ce genre de bestiole, je pense que c'est une semaine d'efficacité quand même.
Ah, c'est bon ça.
Mais c'est pareil, ils arrivent à s'adapter à peu près à tout. Donc il faut souvent mélanger plusieurs techniques comme ça, de manière à ce qu'il y en ait une qui soit plus efficace que l'autre. On ne sait pas trop ce qui est efficace, mais au bout du compte, ça marche.
Entendu.
Bon, l'idéal, bien sûr, c'est de grillager. on est tranquille.
Oui, enfin, c'est... Oui, mais bon, après...
Un peu plus contraignant, oui.
Faire un blocos de son jardin, un blocos, c'est un peu
ouais,
désolant.
Mais là, on est obligé, parce qu'on n'aura rien. Sinon, il passe toutes les nuits. Enfin, là, on a mis des voiles sur les parties ouais. potagères. Apparemment, il ne retourne pas les voiles, donc... mais bon.
Non, parce qu'effectivement, dans un premier temps, ça lui fait peur. Par contre, dans un deuxième temps, s'il voit que ça bouge pas, il risque d'y s'habiter et puis de commencer à y aller. Ah, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, vraiment bouger. Il faut vraiment bouger les.
En fait,
et c'est pour ça que le truc à ondes là, c'est pas mal.
Comment, Isabelle?
Avec sur le bord des, vous savez, les tuteurs de tomates. Alors, je pense que ça fait du bruit s'il vient et ça va peut-être le faire fuir.
Ouais, vous pouvez mettre aussi, effectivement, j'allais le dire, des tuteurs avec des boîtes de conserve. S'il y a un peu de vent, ça fait du bruit. Et là aussi,
la lumière, ouais, le bruit,
ou alors il y a des cloches japonaises là en bambou qui bougent justement au premier à chaque mouvement de vent. C'est
oui,
sympa
j'en
comme
ai
son,
une,
mais
j'en ai une dans, je l'ai mis dans le cerisier qui est au-dessus du potager.
Ouais.
En disant, ouais. S'il y a du vent, ça va peut-être une journée, cette nuit-là.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Et ailleurs, mais bon.
Alors là.
Mais comme. C'est comme tout, hein, même au niveau des cerises, les merles et les pigeons s'habituent, hein, donc c'est là aussi il faut changer régulièrement. C'est un peu des fois c'est un peu désespérant.
Ouais, c'est vrai.
Eh bien, écoutez, je vais essayer les lampes solaires dans un premier temps et on verra après pour le grillage.
Et oui, puis essayez aussi le sable au géranium, ça marche pas mal.
Ouais. Oui, ça je l'ai noté, géranium rosa.
Ouais, exactement.
Dans du sable. Mmh. Parfait.
Merci Elisabeth.
Bon, bah, bon courage.
Bon samedi, au revoir.
Au revoir, belle journée à Fouesnant. Merci. Nous sommes à Quévin, chez Annie. Bonjour Annie.
Oui, bonjour Morgan, bonjour Philippe. Moi j'aurais voulu avoir un éclaircissement en ce qui concerne l'ail des ours. J'ai plusieurs versions. J'ai un petit couple que j'ai rencontré dans les bois, le monsieur avait l'air de bien connaître. Lui il m'a dit en dehors du début de la saison où les feuilles sont belles, on peut le consommer, mais dès que l'ail est en fleur, faut surtout plus le consommer. Qu'en est-il vraiment?
L'ail des ours.
Alors, pour être très clair, moi je le consomme toute l'année. C'est-à-dire que je le consomme quand les feuilles commencent à sortir en moyenne vers le 15 mars, et puis je le consomme quand il commence à se mettre en fleurs. J'adore les boutons. Les boutons, pour moi, c'est un régal. C'est vraiment des petits bonbons. Alors c'est un petit peu fort, mais c'est bon. Voilà, j'adore. Je mange les fleurs. Je mange les dernières feuilles après la floraison, et c'est même le moment où je me dépêche de faire un petit pesto que je mets au frigidaire pour en avoir un petit peu le reste de la saison. Et je le mange quand il est à l'état de bulbe. Donc une fois que les feuilles ont fané, eh ben il suffit de savoir où il est, de dégager les bulbes, et ça a un goût là aussi d'ail bien bien marqué. Ça peut remplacer l'ail classique. Donc voilà, moi personnellement, je le mange toute l'année sans problème.
Bon ben d'accord, très bien. Ben, comme ça je suis renseignée. Ben, c'est parfait.
Bon appétit Annie.
Oui, merci. bonne journée. Au revoir, messieurs.
Au revoir. Merci beaucoup, Annie. D'autres conseils à demander, ben, vous n'hésitez pas à vous appeler France Bleu Brésil. Maintenant, Philippe Munier vous répond en direct.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite. 02 98 53 65 65.
Dimanche 29 avril, vivez avec le PMU l'inauguration exceptionnelle du nouvel hippodrome Paris-Longchamp. Pour fêter l'événement, le PMU vous offre la possibilité de remporter une super tirelire de 5 millions d'euros sur le Quintet Plus. À vos pronostics, le nouvel hippodrome Paris-Longchamp s'ouvre à vous. Dimanche 29 avril, vivez un moment unique qui fera peut-être de vous un millionnaire Quintet Plus. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Qu'est-ce qu'il y a?
Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi.
Et
j'ai noté l'heure sur un papier.
Et tu l'as perdu.
Ben voilà, c'est ça.
Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylanemeilleuresante.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique.
mylanemeilleuresante.fr, tu dis?
C'est ça.
Ouais, je vais le noter sur un papier.
Avec mylanemeilleuresante.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien.
Mylan.
Mylan.
Une meilleure santé.
Pour un monde meilleur.
Le moment Nuxe d'Agnès, consultante. J'ai longtemps cherché un antiride naturel qui puisse agir sur tous les signes du vieillissement. Et j'ai trouvé mon bonheur avec les soins Nuxurience Ultra de Nuxe. Mes rides sont lissées, mon visage regalbé et ça se voit. Avec leur texture onctueuse, je n'ai plus à choisir entre efficacité et plaisir.
Nuxurience Ultra de Nuxe, des soins redensifiants aux 7 brevets et aux cellules de fleurs.
Nuxe, Instinctive Beauty. De l'instinct naît la beauté.
Découvrez la nouvelle crème corps anti-âge Nuxurience Ultra pour nourrir et raffermir. En pharmacie et parapharmacie.
France Bleu Brésil.
Je m'approche du vide qui me guette. Je plonge, je mets en premier la tête. Mon cœur se recouvre peu à peu de bleu. J'ai peur d'oublier sa présence, de perdre le jeu de la confiance. Les questions qui me rongent se perdent un peu. Mais c'est pas si facile, et face à toi je pile. Oui, je reste immobile. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid. J'avance au plus près de ce gouffre et je sens le vent qui me pousse. Je sais que je ne suis pas encore prête. J'essaye d'effacer mes angoisses, mes peines, ces horreurs qui me passent, mais s'enfoncent au plus profond de mon être. Mais c'est pas si facile, et face à toi je pile. Oui, je reste immobile. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid. Je rentre à contresens, perdu dans mon enfance qui s'éloigne encore, encore et encore. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme partir en voyage, ne pas pouvoir tourner la page et me perdre encore une fois dans tes bras. C'est comme prendre une autoroute, oublier ce que l'on redoute. C'est quand je me retrouve seule que j'ai froid.
La nouvelle chanson de Louane à l'instant sur France Bleu Brésil.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Philippe Meunier, nous sommes avec Monique à Mur de Bretagne. Bonjour,
oui,
Monique.
Bonjour Philippe et bonjour Morgan.
Bonjour.
Oui, moi j'ai une question par rapport à un anthurium. Mmh. J'ai un anthurium qui a vraiment plusieurs années, qui fleurit tout au long de l'année. Par contre, j'ai un problème avec les feuilles qui, sur le pourtour, jaunissent et ont plein de petites taches marron. Et apparemment, il n'y a pas de bestioles, il n'y a rien. Et ils poussent bien, mais et je ne sais pas si c'est une carence ou...
Alors, ça commence par la pointe de la feuille.
Oui, apparemment, oui.
Ouais. Et puis ça monte tout doucement sur la bordure,
oui,
vers le
bordures,
voilà.
Oui.
Et ben la cause de ça, c'est la lumière. Il a trop de lumière ou trop de soleil, ou à un moment donné dans la journée, peut-être qu'il a ne serait-ce qu'une heure, mais ça suffit, de soleil qui, à travers la vitre, bah, chauffe beaucoup trop. Et les anthuriums, dans leur pays d'origine, sont des plantes d'ombre, ce sont des plantes de sous-bois. Mmh. Donc, le soleil, ça brûle les feuilles. Et c'est souvent, d'ailleurs, je pense que vous devez avoir quelques feuilles. Non seulement le bord est brûlé, mais en fait, le milieu de la feuille doit se décolorer. Aussi, le limbe doit être légèrement décoloré.
C'est vraiment assez... Alors, je vais vous dire... Cet anthurium est exposé au nord, c'est vrai, ouais, qu'il est derrière une vitre.
D'accord.
Ouais.
Mais par contre, j'en ai un dans une véranda exposée au sud qui lui fleurit beaucoup moins, mais a des feuilles très saines. Alors, Ben, je sais pas.
Il a de la chance, lui.
Alors dans ce cas-là, si c'est pas le soleil, c'est un courant d'air. Mais de toute façon, ça c'est très typique. Hein. Soit c'est le soleil, soit c'est un courant d'air. Mais c'est quand ça commence par la pointe et que ça monte tout doucement le long de la feuille, quand c'est carrément en plein milieu, ça peut être des champignons, ça peut être. D'accord. Mais quand c'est une brûlure comme ça sur le bord et la feuille devient tabac un peu, c'est vraiment typique, soit de coups de soleil, soit de coups de froid provoqués par des courants d'air. Donc c'est l'un ou l'autre.
On n'ouvre que très 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 rarement et très peu de toute façon.
Oui, mais ça ne doit pas lui plaire.
Et c'est un courant d'air peut-être que vous ne ressentez pas vous-même, Monique, mais que la plante ressent en revanche.
Parce qu'elle, elle est là toute la journée, toute la nuit, donc il y a un moment donné où il y a un truc qui ne lui plaît pas de toute façon. Et ça peut, même si ça ne dure pas longtemps, même si c'est ne serait-ce que 10 minutes par jour, elle réagit.
10 minutes par jour, parce que ce n'est pas 10 jours.
Non, mais voilà.
Non, mais il y a quelque chose.
La plante est plus sensible que vous, en fait, Monique.
Ouais, c'est la nouvelle, il n'y a pas de problème.
Une carence de quelque chose.
Non, les carences.
Le pot ou tout ça, ça change pas.
Non, ça c'est vraiment typique. Hein. Là, je suis affirmatif là-dessus. Les carences, c'est autre chose. Les feuilles, les taches marron ou la décoloration est vraiment centrale. Il n'y a pas cette brûlure qui commence par la pointe de la feuille. C'est pour ça que c'est la première chose que je vous ai demandé.
Quand ça
commence par la pointe de la feuille, c'est évident.
D'accord.
C'est tout, ou un coup de froid ou un coup de soleil.
Comment je vais faire parce que je suis sceptique par rapport à.
Oui, non, mais c'est surtout l'emplacement. Faites le test tout simplement, Monique, et voyez. Comment elle se comporte
Faites aussi un test, achetez un hygromètre et mettez un hygromètre à côté de votre anthurium et regardez si vous n'avez pas surtout une baisse, une hygrométrie beaucoup trop basse pour qu'une plante soit bien. Surtout,
je veux bien vous croire parce que
surtout une plante de sous-bois
peut-être suffisamment, ça pourrait venir de là.
Il y a pas que ça, il y a aussi l'humidité de l'air. C'est pas que
l'humidité
du pot,
d'accord.
L'humidité de l'air. Et quand l'air est trop sec, ça provoque aussi des brûlures.
Ouais.
Ah oui, d'accord. Ah, ça pourrait être ça, peut-être.
Aussi.
Ouais. D'accord.
Ouais. L'enquête se poursuit.
En tout cas, je vous remercie. Allez, au revoir et bon week-end.
À vous aussi, merci.
Et merci pour vos bons conseils.
Merci beaucoup. Christine nous rejoint en direct sur France Bleu Brésil. Bonjour Christine.
Bonjour Philippe, bonjour toute l'équipe.
Bonjour, vous êtes
alors,
à Poudagne.
Alors moi, je trouve disgracieux mes taches de petites trèfles dans la pelouse.
Bon.
Qu'est-ce que je peux y faire ?
Pour donner à manger à votre pelouse.
Ouais.
Voilà.
Ah, c'est
quand,
ça.
Quand du trèfle pousse dans la pelouse, ça veut dire que la pelouse n'a pas assez à manger. Et la seule plante qui sait se développer sans qu'on lui donne à manger, parce qu'elle prend l'azote de l'air, c'est le trèfle, enfin en tout cas dans la pelouse, c'est le trèfle. Et donc plus on a du trèfle dans la pelouse, plus ça prouve qu'on ne donne pas, on s'occupe pas bien de sa pelouse, on ne lui donne pas assez à manger. Et donc du coup, c'est le trèfle qui s'installe.
Qu'est-ce que je peux lui donner ? Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Pour moi, la meilleure nourriture pour la pelouse, c'est le compost. Un bon compost maison ou un bon, comme je dis régulièrement, le compost de déchetterie pour les pelouses, c'est très bien aussi.
Hein,
autant pour le potager, je vous dirais non. Autant pour la pelouse, c'est un très bon produit qui, en général, n'est pas cher du tout. C'est un peu casse-pied à filtrer, à tamiser.
Il y avait une tomate qui poussait.
Oui, mais c'est pas grave, une tomate, c'est une plante annuelle, donc dès que vous allez lui mettre un coup de tondeuse dessus, elle sera morte. Donc, il n'y a aucun problème. Et puis, les composts de déchetterie, s'ils ont été bien faits, maintenant, il y a des normes très précises pour qu'ils soient bien faits, même les graines de tomates sont désactivées. Hein. Donc, normalement, le problème, c'est quand on les laisse traîner, une fois qu'ils ont fini leur maturation, qu'on les laisse traîner sur l'aire de compostage, c'est là où toutes les graines qui se baladent dans le vent, et il y en a plein de graines qui se baladent dans l'air, elles viennent recontaminer le tas. Mais à la fin de la période de fermentation puis de maturation, il n'y a plus aucune graine active dans un compost bien fait.
Parce que là, je compte passer la semaine prochaine, ou dès que le temps me permet, un scarificateur. Parce que j'ai pas mal de mousse, oui. Je tends trop bas, je sais.
J'ai même pas besoin de vous le dire, c'est bien.
C'est bien que c'est de le reconnaître.
Alors, ne passez pas. Ne passez pas un scarificateur pour enlever de la mousse. Il existe des engins qui s'appellent des démousseurs. Et si quelqu'un vous dit « Ah, le démousseur, ça, c'est nul, nanana », c'est parce qu'il n'en a pas à vous proposer. Mais le scarificateur, ça scarifie, ça coupe le sol, alors que le démousseur, ça ne rentre pas dans le sol, ça ne fait que caresser le sol et de manière à décoller la mousse. Donc si vous avez de la mousse, passez un démousseur, passez du temps à trouver le démousseur, mais de passer un scarificateur au printemps sur un gazon de particulier, je ne parle pas des gazons spéciaux que sont les gazons sportifs d'une manière générale, mais c'est une aberration parce qu'on ne lui apporte pas ce dont il a besoin derrière. Donc éventuellement passer un scarificateur à l'automne, en fin d'été, on va dire fin septembre, début octobre, c'est bien. Parce que derrière, on va lui apporter un petit peu de potasse et qu'un mois plus tard, on va lui apporter du carbonate, des carbonates de chaux. Mais de le passer maintenant, alors qu'elle souffre, cette pelouse, parce qu'elle est tondue trop ras, parce qu'elle n'a pas assez à manger, la preuve, c'est qu'il y a du trèfle. Si en plus, on vient lui couper les racines et qu'on ne lui donne rien derrière et les températures qui sont en train de grimper et qu'on risque de ne pas l'arroser, eh ben, là, on est sûr de la faire mourir ou en tout cas de la faire souffrir.
Ouais. Donc voilà le travail à venir, Christine.
Un trou de tondeuse, ça équivaut à combien de centimètres normalement ?
Ça dépend des machines, là. Mais le minimum, d'accord. Rappelons-le, okay. Philippe, pour la hauteur.
Le minimum, c'est 5 centimètres. Vraiment, mini, c'est 5 centimètres.
5-7, bon,
pour être bien, voilà, une pelouse, il faut qu'elle soit tondue entre 6 et 9.
Ouais. Entre 6 et 9 centimètres,
voilà.
Christine.
Plus il fait chaud, plus il faut la tondre haut. Plus il fait froid, plus les températures sont correctes. Alors, correct pour une pelouse, c'est en ce moment, c'est 12 degrés. La pelouse, elle adore 12-15 degrés. Hein. Donc, on est à 12-15, on peut la descendre à 5 centimètres. Par contre, dès qu'il commence à faire chaud, si on veut la garder en bonne santé, il faut remonter la coupe, le plateau de coupe, de manière à ce qu'elle ne souffre pas de la chaleur.
Entendu, Christine.
Ok, mais toutes les mauvaises herbes, c'est vont traîner.
Oui, mais c'est en nourrissant cette pelouse.
Mais non, il n'y a pas de mauvaises herbes. On peut tondre à 6 cm ou même à 9 cm, mais tondre toutes les semaines.
Ouais.
Le tout, c'est d'amener tranquillement la pelouse à 9 cm et ensuite, on peut continuer de tondre toutes les semaines. Donc, il n'y a aucun grainage de quoi que ce soit. Hein. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la plante, elle se nourrit avec la sève qu'elle fabrique dans sa feuille. Si on laisse une feuille très petite, la plante, elle souffre et elle ne se nourrit pas, elle ne fabrique pas de sève. Donc elle souffre. Plus on va laisser de la feuille, mieux la plante va pousser et donc elle va pousser lentement au lieu de chercher au contraire en permanence à retrouver de la feuille pour retrouver un peu de vie. Donc plus on tond court, plus la pousse vite. Plus on tond haut, plus la pousse lentement.
D'accord.
Voilà Christine. Alain et Dany attendent juste derrière.
Ça bouleverse un peu des idées reçues que l'on a,
des
mais voilà,
aussi.
C'est important à intégrer.
Ouais. Entendu Christine.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Belle journée à Plou Daniel.
Bonne journée.
Et au revoir. Dans un instant, on se retrouvera avec Alain à Plouzané pour une question sur ses framboisiers.
Une question jardin. Notre expert y répond tout de suite.
Cette route m'a englouti.
groupe Brestois. Bon revoir à l'instant sur France Bleu Brésil.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Nous sommes à Plouzanet chez Alain, Philippe. Nous sommes pour une question de framboisier. C'est bien ça, Alain?
Oui, c'est ça. Bonjour, Morgan. Bonjour, Philippe. Bon, en fait, ma question, c'est, j'ai remarqué que sur mes plants de framboisier, sur la tige, certains avaient comme une boule, comme un chancre qui se formait à en gros, à un bon tiers de hauteur, quoi. Mmh. Alors, je sais pas, j'ai pas vraiment pressé sur la boule, mais je voulais savoir si votre avis.
Sur cette... Alors, a priori, comme ça, brûle pour point, c'est la première fois que j'entends parler. Hein, donc,
ah bon.
Oui. Donc, faudrait effectivement presser sur la boule, voir s'il sort quelque chose. Après, un chaume de framboise, ça a une durée de vie de, à tout casser, 8 mois. Donc, en fait, au bout de 8 mois, vous le coupez. Donc, s'il y a eu une attaque de champignons, c'est pas un problème parce que vous le coupez, éventuellement, vous le brûlez, pour éviter que ça se reproduise. Mais aussi, si un chancre dû à un insecte, c'est pareil. Donc, ça me paraît pas être dangereux.
D'accord. Hein? Ouais, parce que à certains endroits, ça a même cassé et puis ça, la tige repoussait éventuellement un peu, quoi.
D'accord. Ouais, donc c'est peut-être dû à un insecte. Faudrait regarder. Hein, mais en fait, je vous dis, dans la mesure où le chaume, bah, la première fois, si c'est remontant, la première fois qu'il donne, c'est au mois de septembre-octobre. Après, il redonne au printemps suivant, on va dire grosso modo mai-juin. Et puis après, il est fichu. De toute façon, il dessèche. Donc
ouais,
à ce moment-là,
c'est pas du remontant. En fait, ils vont donner là au mois de juin-juillet.
D'accord, donc s'il donne en juin-juillet, dès la fin de fructification, coupez les chaumes et brûlez-les. Comme ça, vous bloquez le problème.
D'accord.
Hein, pour les mâles barbecue, c'est très bien. Quand c'est bien sec, c'est génial.
Ouais. D'accord. Et le bois d'oléaria, c'est bon pour faire du bois de chauffage?
Alors, c'est lequel, l'oléaria, le virgata, celui qui ressemble un peu à un grand romarin?
C'est vraiment la feuille de houx, quoi.
Avec des macro... piquants. Macrodonta. C'est pas un vrai bois de chauffage. De toute façon, c'est jamais très très gros. Mmh. Hein, c'est des arbustes, hein, donc le plus gros qu'on trouve, c'est même pas.
Le mien, il est gros.
Ah, d'accord. Bon,
d'accord.
Bah, de toute façon, moi, j'en ai, je sais plus, 2 ou 3 là dans le jardin. Effectivement, quand je les taille, de temps en temps, je les rajeunis un petit peu. Ben, tout le bois qui est un peu plus gros que le pouce, ça passe en bois dans le feu, quoi.
Mais
soit
là,
pour l'allumage, soit.
Ouais.
Mais les grosses sections.
De toute façon, 5-6 cm, hein, même.
Mais tous les bois se brûlent. Je veux dire, moi, c'est tout ce qui, voilà.
Après, c'est une question de rendement, quoi.
Exactement. Ouais. Ça, vous connaissez l'expression. Il faut faire feu de tout bois. Ah, voilà.
Très bien, je vous remercie.
Merci Alain, bientôt à plus.
Bon week-end.
Bon week-end. Nous sommes chez Dany. Bonjour Dany.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'appelle pour un problème de...
Le camélia.
Mmh. J'ai de la fumagine sur les feuilles et bon, j'ai traité l'année dernière avec du produit pour, seulement ça revient, je ne sais pas, est-ce que c'est habituel qu'il y ait de la fumagine sur les camélias?
Vous avez mis des produits comment, Dany?
Un produit, c'est mon mari qui m'avait fait une décoction.
Ah d'accord.
Ah bon, ça va, c'est pas un vilain produit qui tue tout, sauf ce que... Bon.
Alors, décoction maison, sans doute, oui.
La fumagine sur le camélia, d'où ça vient? La fumagine, elle vient pas toute seule comme une grande. C'est d'abord, il faut que la feuille se recouvre de miella dû à des pucerons ou à des cochenilles. Donc, soit dans votre camélia, soit sur l'arbre qui est au-dessus du camélia. Parce que des fois, c'est l'arbre qui est au-dessus, on ne se rend pas compte, mais ça vient de l'étage au-dessus. Ici, il y a un arbre au-dessus, évidemment. Il y a soit des cochenilles, soit des pucerons. Donc, le pucerons, comme tous les êtres normalement constitués, ça rentre d'un côté, ça ressort par l'autre, et ce qui ressort, c'est un miella sucré qui tombe sur les feuilles du camélia, et lorsque ce miella commence à dessécher, c'est le support pour une moisissure, un champignon, enfin une famille de champignons, qui s'appelle les fumagines. Donc l'origine, à la base, c'est vraiment un insecte piqueur-suceur qui est soit dans le camélia, soit à l'étage d'au-dessus, et qui, lui, il faut le corriger, si je puis dire, l'erreur. Donc, ça tombe bien, parce que de toute façon, que ça soit pour la fumagine ou que ça soit pour le piqueur-suceur, la mixture est la même. Vous prenez de l'eau, tout bêtement, avec du savon noir. Alors, il faut mettre au moins 5 cuillères à soupe de savon noir par litre, donc c'est quelque chose d'assez gras. Vaut mieux faire tiédir l'eau pour que ça se mélange bien, et vous pulvérisez de bas en haut, parce qu'il faut que ça aille sous les feuilles, donc tout votre camélia, et puis s'il y a un arbre au-dessus, eh ben il faut trouver une échelle où il faut allonger la lance du pulvé. On trouve des rallonges, hein, ça existe, pour, de manière à pouvoir les arroser sous les feuilles de l'arbre qui est au-dessus, de façon à tuer les cochenilles ou les pucerons. Et de toute façon, comme on pulvérise par le dessous, ben, y a forcément de l'eau savonneuse qui va retomber dessus, et donc elle va laver la fumagine. Donc vous faites d'une pierre deux coups.
Oui, mais moi j'ai pas d'arbre justement dessus ou.
Ben c'est dans ce cas-là, c'est dans votre camélia qu'il y a des pucerons et des cochenilles. Donc c'est là qu'il faut. C'est que dans votre camélia que vous passez l'eau savonneuse.
D'accord. Bon, ben je vous remercie.
Merci beaucoup.
Mais il faut le faire régulièrement. Il faut le faire au moins 3 jours de suite. Et bien passer. Je sais pas comment il est gros votre camélia, mais si c'est un gros sujet. Il est tout petit ?
Oui, oui.
Ah ben, dans ce cas-là,
et
mais...
Il fait 50 cm de haut.
D'accord. Ben, vous vérifiez bien qu'une fois que vous avez fini de pulvériser, que tout le dessous des feuilles est bien mouillé, que vous n'en avez pas oublié, les feuilles et puis les bouts des tiges. Et puis vous faites ça 3 jours de suite, vous laissez sécher 24 heures, hein, donc le 4e jour, et vous regardez sous les feuilles, de façon même déjà maintenant, regardez sous les feuilles, à mon avis, vous allez trouver des espèces de comme des petits points marron chocolat. Oui. Hein, oui. C'est les cochenilles. Si, en grattant tout doucement, elles se décollent pas, c'est qu'elles sont actives et elles sont vivantes. D'accord. Dans 3 jours, quand vous aurez fait le traitement, à chaque fois que vous allez les toucher, les frotter, toutes celles qui seront mortes, elles vont tomber tout de suite. Et là, vous verrez l'efficacité de votre traitement. Et s'il y en a encore trop de vivantes, eh ben, vous recommencez 3 jours de suite, vous relaissez une journée ou deux sécher, vous revérifiez. Et s'il y en a encore, vous recommencez. Le but du jeu, c'est vraiment de les enlever toutes.
Ah oui, d'accord.
Des fois, il faut repasser 4-5 fois. Au bout de 4-5 fois, en général, c'est nettoyé.
C'est nettoyé.
D'accord.
Voilà, Dani.
Merci.
Merci beaucoup à vous. À bientôt, Amelvin.
Au revoir.
Au revoir. Dans quelques secondes, notre agenda vert, Philippe Munier. France
Bleu. Niché au pied des monts d'Arrée, c'est sur la commune de Locmélard que partira le 10 mai la 30e édition du Trouménézarré. Cette année encore, les randonneurs ont rendez-vous sur les 7 circuits proposés de 5 à 40 km. Inscrivez-vous dès à présent pour cette randonnée pédestre, familiale et solidaire. La 30e du Trouménézarré, jeudi 10 mai, un événement France Bleu Brézizel.
Du 25 avril au 1er mai sur France Bleu, suivez le Tour de Bretagne cycliste. La course rassemble les espoirs du cyclisme mondial. De 10h à midi, France Bleu vous propose une émission spéciale depuis le village départ. L'étape du jour, les coulisses de l'épreuve et surtout, la vie de la commune sont au programme. Châteaubriant, Louisfert, Baden, Cloire-Carnoët, Colpeau, Planquette, Saint-Potant... Le Tour de Bretagne cycliste 2018, à vivre sur France Bleu, francebleu.fr et sur nos réseaux sociaux.
Une question jardin ? Notre expert y répond tout de suite.
On se retrouvera en direct en effet de Cloire-Carnoët pour le Tour de Bretagne cycliste dans quelques minutes. Mais auparavant, notre agenda vert, Philippe Munier. Nous sommes ce week-end à Redon, hein, en particulier aujourd'hui et demain.
Oui, aujourd'hui et demain, c'est les 31e édition de Végétal Passion, hein, donc toujours le week-end dans ce pays de Redon. Et donc, bah, j'aurai le plaisir de cet après-midi d'animer, même déjà dès 11h ce matin, d'animer des ateliers, un sur la pharmacie, les potions, mixtures et onguents à faire soi-même. Hein, on est presque un peu dans la sorcellerie, là, tout ça. Wow. Et puis cet après-midi, je vous parlerai de but. Alors, but ou pas but, voilà, c'est la question. Qu'on pourra se poser. Et voilà. Et puis on parlera aussi de biocontrôle, hein, parce que on s'aperçoit très bien que avec des petites astuces comme celles dont je vous parle depuis une petite quinzaine d'années, ça suffit largement pour avoir un jardin qui soit à la fois vivant et à la fois productif. Donc ça s'appelle le biocontrôle, c'est le nouveau nom qu'on lui a trouvé, c'est très bien. Voilà. Donc on pourra parler de ça aussi. Et pour finir de ce soir, en fin de journée en tout cas, eh bien j'aurai le plaisir de baptiser une rose, création de du breton ou mayennais d'ailleurs plutôt, Michel Adam, hein, créateur de roses. Et cette belle rose s'appellera Douceur Redonnaise. Wow. Et j'ai le plaisir d'être le parrain. Wow. Donc et Nicole Bochung, journaliste spécialisée de l'horticulture, sera la marraine. Donc on va porter cette rose sur les fonts baptismaux. Ça va, ça va être bien. Pour et puis donc, de toute façon, demain j'y serai pas, mais par contre il y aura encore demain à Redon. Par contre demain il y a plein de choses partout
en
Bretagne.
Pour notre dernière minute d'émission, alors, les autres rendez-vous alors.
On va se dépêcher parce qu'il y a Vue sur Vert, donc c'est à Saint-Briac, hein, c'est donc en Ille-et-Vilaine, mais on a aussi à Plouhénan le salon de la nature et du jardin, et puis on a les Rodos en fête à Élian, donc organisé par l'association bretonne du rhododendron, et puis à Porspoder, eh bien c'est Fête du Jardin, alors fête FAITES, hein, c'est une invitation et à la fête et à l'action, hein, donc c'est très très bien, c'est organisé par la mairie et par les bénévoles qui fleurissent Porspoder, donc c'est plutôt sympa et tout est gratuit. Et puis vous avez aussi le Jardiplante 2018 à Morlaix, organisé par le Lions Club. Donc vous voyez beaucoup de choses dimanche en Bretagne. Donc vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire, mais bon voilà, vous avez largement le choix, donc il n'y a pas de problème. Allez dans une fête des plantes, il fera pas très très beau, ça tombe bien, vous pourrez choisir les plantes pour votre terrasse pour quand il fera beau.
Eh ben, on se retrouve ce week-end à Redon avec vous Philippe Meunier, puis à lundi sur France Bleu Brézizel à 9h35. Merci infiniment pour vos conseils. Merci Philippe.
Bon week-end Morgan.
France Bleu Brézizel.